Vous êtes sur RTL.
Nouvelle. Ça suffisait pas.
À 2h, il sera 3h. On perd une heure de confinement, c'est toujours ça de prix. Très bel après-midi sur RTL. Restez chez vous. Tout de suite, le journal inattendu vous est présenté par Anne Le Hénaff.
RTL, 12h30.
Bah oui.
Oui. 12h30, 13h30, le journal inattendu sur RTL avec Anne Le Hénaff.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du journal inattendu, édition spéciale confinée. Nous sommes à 12 jours de confinement maintenant, d'enfermement. Et ça va durer puisque le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé hier une prolongation de 2 semaines supplémentaires jusqu'au 15 avril. Nous passerons donc le week-end de Pâques sous cloche, ce qui est somme toute assez logique. Alors on a décidé aujourd'hui de prendre des nouvelles d'anciens invités de ce journal inattendu qui vont nous raconter leur confinement. Où sont-ils? Comment est-ce qu'ils s'occupent? Est-ce qu'ils s'ennuient ou pas du tout? Alain Manoukian sera en ligne avec nous dans un petit quart d'heure. Il a composé un morceau spécialement pour vous. Les auditeurs de RTL, André Manoukian, bien sûr, je l'ai appelé Alain, je suis confiné moi aussi, ça fatigue. Un slam spécial donc, dont il nous fera profiter. On ira ensuite voir le producteur Dominique Besnéard, on attend avec impatience la saison 4 de sa série culte 10%. Et puis Benjamin Biolay sera là aussi, il poste régulièrement des chansons sur les réseaux sociaux, il en partagera une avec nous. On parlera aussi un peu de cuisine, hein, puisque tout le monde cuisine au fourneau pendant ce confinement, avec le grand chef Thierry Marx. Et puis Eric Orsenna sera également avec nous pour nous raconter son confinement et ce qu'il pense, lui, de cette pandémie. Ça fait plusieurs années qu'il travaille sur la mondialisation et sur les épidémies, ce qui tombe plutôt bien. Voilà, 5 confinés, rien que pour vous, 5 hommes à suivre dans ce journal inattendu. Mais d'abord, les titres de ce samedi 28 mars. Et le coronavirus, bien sûr, encore et toujours avec cette inquiétude à Belle-Île-en-Mer. Le virus est arrivé sur l'île. Il y a 34 cas suspects ou confirmés, s'inquiètent les médecins de l'île bretonne. Inquiétude aussi en région parisienne où on attend encore la vague, le pic de l'épidémie. Les hôpitaux de l'Île-de-France ne sont pas encore saturés, disent les autorités. Pendant ce temps-là, la région Grand Est, elle, évacue ses malades. Ce matin, des hélicoptères militaires ont emmené 2 patients en Allemagne. Et demain, c'est un TGV qui va transférer une trentaine de personnes de Strasbourg vers d'autres hôpitaux dans des zones moins touchées, le sud-ouest notamment. Et nous parlerons aussi du bras de fer autour des droits télé de football. Canal+ refuse de payer la Ligue de foot puisqu'aucun match n'est disputé en ce moment. La météo avec vous Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour, on va avoir de plus en plus de nuages cet après-midi sur les régions du nord-ouest du territoire. Alors c'est le cas déjà depuis ce matin en Bretagne et en Normandie, des nuages qui vont gagner la Picardie, le bassin parisien, le centre, les Pays de Loire ou même le Poitou-Charentes. Au fil des heures, il n'y aura pas de grosses dégradations, simplement quelques averses possibles entre le Finistère et la Seine-Maritime. Partout ailleurs quand même, un temps plutôt bien ensoleillé, avec toujours un petit peu d'instabilité sur les Pyrénées et sur la Corse. Ça va se traduire par 2-3 averses, rien de très méchant. De même que sur les Alpes du Sud, sur le relief, en tout cas, il pourrait y avoir un petit peu de pluie dans le courant de la journée. À noter un Mistral à 50 km/h dans la vallée du Rhône et un vent d'est assez fort près des côtes de la Manche avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Les températures, elles sont plutôt clémentes dans l'ensemble. 14 degrés attendus à Lorient, 16 à Saint-Étienne, 17 à Paris, à Rouen, à Angoulême, 18 degrés pour Colmar et Mâcon, comptez 19 à Cahors et 21 degrés à Nîmes.
Merci Valérie Quintin.
Le journal inattendu sur RTL.
Le coronavirus qui poursuit donc inexorablement sa progression, il a atteint des zones qui pouvaient se croire préservées par leur situation géographique. En l'occurrence, une île, Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, au large de Vannes. Des dizaines de Parisiens ont filé s'y confiner dans leur résidence secondaire il y a 10 jours, ce qui a plus qu'énervé beaucoup d'habitants de l'île. Mais l'heure n'est pas à la recherche d'un coupable, les faits sont là. Le virus est arrivé sur l'île. Nicolas Bobby, vous êtes le correspondant de RTL en Bretagne. Les médecins font état de 32 cas suspects et 2 cas confirmés.
Oui, 32 cas de suspicion. Le Covid-19 est à Belle-Île. Frédéric Legarce, maire de Le Palais.
Seuls 2 cas sembleraient être avérés et les autres sont en quatorzaine et la situation est pour l'instant tout à fait sous contrôle. On a la chance à Belle-Île-en-Mer d'avoir un hôpital qui s'est structuré, organisé autour de la médecine de ville.
Une salle d'attente et une salle de consultation sont dédiées aux malades susceptibles d'avoir le coronavirus. Il y a un questionnaire et un examen clinique, le docteur Stéphane Pinard.
Et à ce moment-là, S'ils n'ont aucun signe de gravité, on les renvoie à leur domicile. On met en place une surveillance à J3, J6 et J8 par l'hospitalisation à domicile ou par les infirmières qui peuvent passer aussi à domicile pour pouvoir les suivre, les réévaluer et au besoin faire soit de la visio et de la téléconsultation ou soit appeler régulièrement par téléphone pour prendre de leurs nouvelles.
Le virus a-t-il débarqué avec l'arrivée massive des propriétaires de résidences secondaires ou le retour de Bellilois du continent? Comme partout désormais, tout le monde doit rester confiné.
Nicolas Bobillant, Bretagne, pour RTL. Selon le dernier bilan hier soir, 1995 personnes ont succombé en France à cette maladie. Et ce chiffre ne prend en compte que les décès à l'hôpital. Plus de 15 700 malades sont hospitalisés, a dit le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Notamment dans le Grand Est, où les hôpitaux sont au bord de la saturation. Tous les soignants sont sur le pont et l'armée vient en renfort. Un hôpital militaire de campagne a été construit il y a quelques jours à Mulhouse. Et ce matin, ce sont des hélicoptères de l'armée qui ont évacué deux premiers malades vers l'Allemagne. C'est une première, Pierre Julien, dans le cadre de l'opération Résilience, annoncée mercredi par Emmanuel Macron.
Oui, le choix d'utiliser ces hélicoptères s'explique par la possibilité qu'ont ces machines de se poser au plus près des établissements hospitaliers, même sur des zones dédiées à cet effet, un gain de temps énorme. Cette toute première mission s'est déroulée en étroite coordination avec le SAMU et la sécurité civile de Moselle. L'hélicoptère NH90 Caïman appartient au 1er régiment d'hélicoptères de combat de Pfalzbourg, un appareil dont la soute a été spécialement aménagée avec deux civières et tout le matériel de réanimation, de ventilation. Tout avait été testé ces dernières 48 heures. Le Caïman est arrivé à Metz où il a embarqué deux malades très sérieusement atteints par le virus et a rejoint une heure plus tard l'hôpital d'Essen en Allemagne, en Rhénanie du Nord. Une fois sa mission accomplie, la machine va passer à la désinfection complète pour une prochaine évacuation.
Les précisions de Pierre Julien pour RTL. Quatre autres malades de la région Grand Est doivent arriver dans la journée pour être soignés à Poitiers et à Limoges. Et demain, ce sont deux TGV qui vont partir avec 36 patients pour les transférer vers La Rochelle, Bayonne ou encore Pau, des hôpitaux qui sont pour le moment moins saturés. En Ile-de-France, ça se tend considérablement comme on pouvait le craindre. Le docteur Agnès Ricaribon, chef du SAMU 95, était ce matin l'invité de Stéphane Carpentier sur RTL.
Il y a un peu moins d'appels, mais des appels de patients qui sont plus sérieux et une augmentation indiscutable du nombre d'interventions des véhicules, des ambulances du SAMU pour des patients qui décompensent sur plan respiratoire et qui ont besoin de réanimation et de soins critiques.
Ça veut dire quoi que cette fameuse vague qu'on nous annonce, qui déferle en ce moment et de plus en plus, elle est là, vous la ressentez?
Oui, on la ressent et on a une coopération avec les établissements pour augmenter la capacité en lit de soins critiques de manière à pouvoir faire face à la demande. Tout est une question d'organisation, hein, comme dans toute situation de crise, il faut s'adapter en permanence toutes les heures. Donc on a augmenté les capacités de réanimation. On avait effectivement du mal à trouver des places de réanimation disponibles. Donc l'agence régionale d'Île-de-France a mis en place une cellule d'aide à la recherche des places de réanimation pour que le temps médical utile soit utile aux patients et pas à rechercher des lits de réanimation. Donc on s'adapte en permanence pour faire face.
Le docteur Agnès Ricaribon, chef du SAMU 95, qui était ce matin l'invité de Stéphane Carpentier sur RTL. Signalons tout de même que depuis le début du mois, 5700 personnes sont sorties guéries des hôpitaux après avoir contracté le virus. Le mot d'ordre reste donc plus que jamais, restez chez vous pour éviter une explosion du nombre de cas. C'est pour cela que le confinement a été prolongé d'au moins 15 jours, a annoncé Édouard Philippe hier soir. Donc au moins jusqu'au 15 avril prochain. Le Premier ministre tiendra un point presse tout à l'heure à 17h, accompagné de son ministre de la Santé, Olivier Véran. Midi 38 sur RTL, on marque une pause dans ce journal et dans un instant la suite avec un pont aérien comme en temps de guerre entre la France et la Chine pour pouvoir enfin équiper les soignants de masques qui manquent cruellement. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL
avec Anne Le Hénaff
et des enfants.
Le journal inattendu sur RTL
avec Anne Le Hénaff.
Il est midi 40, donnez-nous des masques, c'est le cri d'alarme que répètent inlassablement les soignants depuis des jours et des jours. Il y a un problème d'approvisionnement ou de stock, c'est certain. Le journal Le Monde révèle ce matin qu'un pont aérien va être mis en place pour acheter 600 millions de masques le plus rapidement possible à la Chine. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
Le premier avion cargo devrait décoller demain.
Oui, c'est un énorme défi logistique qui va durer au moins 2 mois et demi. La France passe actuellement des marchés avec des usines de la région de Shenzhen pour qu'elle fabrique au plus vite 600 millions de masques, dont 74 millions de FFP2. Un premier aller-retour est prévu dès ce dimanche avec un avion cargo qui doit ramener 10 millions de masques chinois. Un défi de fabrication, mais aussi de transport. Le trafic aérien mondial est très perturbé. Il faut trouver des avions de fret, établir des plans de circulation compliqués et payer 1,5 million d'euros par vol aller-retour, sans parler bien sûr du coût de la marchandise. Avec ces masques, dont l'ambassade de France à Pékin va tenter de vérifier la bonne qualité, il y aura également des appareils respiratoires. En revanche, il ne semble pas prévu pour le moment de commander des tests. Ceux envoyés vers l'Espagne étaient défectueux. La Chine, qui sort tout doucement de cette pandémie, en profite pour montrer sa puissance. Il faut toutefois rappeler qu'au début de la crise, c'est l'Union européenne qui avait envoyé 56 tonnes de matériel médical vers la Chine.
Les précisions de Christophe Decroix pour RTL. À Paris, un homme a été mis en examen. Il a vendu des masques chirurgicaux sous le manteau. Les policiers ont découvert 23 000 masques de protection dans sa camionnette, dans le chic 16e arrondissement de la capitale. Mais il y a aussi du beau dans cette période si particulière que nous traversons tous. Des gestes de solidarité, par exemple celui de prêter son appartement vide à un soignant venu en renfort. Il est de toute façon impossible d'organiser un déménagement en ce moment. Tout est suspendu avec le confinement. Et certaines agences immobilières jouent le jeu. Charlotte Boisseau, directrice de l'agence Guillotquet à Villejuif dans le Val-de-Marne, l'explique à Vincent Serrano.
Avec l'arrivée du confinement, les futurs locataires se sont aussi retrouvés bloqués de leur côté. Donc, les baux n'ont pas pu signer, les appartements étaient prévus d'être laissés vides. Et j'ai un propriétaire qui a eu cette idée de me dire pourquoi pas les utiliser à destination des soignants plutôt qu'ils restent inoccupés en fait. Donc l'appartement est sur Villejuif, c'est un soignant qui travaille à l'hôpital Paul Brousse. Il a une femme qui est atteinte d'un cancer et une petite fille de 2 ans. La responsable du personnel le trouvait souvent en train de dormir dans l'hôpital pour ne pas risquer de mettre sa femme en danger. Là, il est déjà à proximité de son lieu de travail, il peut dormir tranquille. Ouais, on devrait arriver à 8 en fin de semaine prochaine. C'est des studios et 2 pièces. Ce réseau et cette mise en place, elle peut se faire n'importe où, où il y a un hôpital à proximité et où il y a des soignants qui ont besoin. Alors contactez-nous, voilà.
Témoignage recueilli par Vincent Serrano pour RTL. Pas de match, pas de chèque. Canal+ ne veut pas payer à la Ligue de football professionnelle les droits de diffusion des matchs de Ligue 1 qui n'ont pas lieu en ce moment pour cause de confinement. C'est ce que révèlent nos confrères de l'équipe ce matin. Canal+ devait faire un chèque de 110 millions d'euros à la LFP dans une semaine. Mais le patron du groupe, Maxime Saada, ne veut pas Nicolas Georgerot.
Oui, et il a expliqué sa position dans un courrier envoyé à la Ligue. Assez simple à résumer finalement. Suspension du championnat, aucun match joué, donc aucun match diffusé sur les antennes et pas de versement à la clé. 110 millions d'euros dus par Canal+ au 5 avril, 42 par beIN Sport, mais qui n'a pas fait connaître ses intentions. Le bras de fer a commencé avec les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sur ce sujet qui crispe le monde du foot. Noël Le Graët, le président de la Fédération Française, dans On refait le sport hier sur RTL, mettait en garde toutes les parties.
Bien entendu qu'il faut faire attention, que chacun respecte ses engagements, le football d'abord, bien évidemment, et nos diffuseurs aussi. Il faut faire extrêmement attention, on ne pourra pas démarrer n'importe quand, restons très, très vigilants. Je crois qu'on trouvera toujours des accords, l'argent n'est pas la priorité dans nos discussions.
Mais il occupe quand même une place centrale. Les droits télé sont cruciaux pour les budgets des clubs professionnels, qui espèrent toucher l'intégralité des 789 millions d'euros prévus pour cette saison. Ça semble bien compliqué, car même si le championnat reprend, le cahier des charges des diffusions sera modifié, les chaînes vont vouloir renégocier à la baisse.
Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Et puis une info qui vous occupera demain en ces temps de confinement, changez toutes les pendules et toutes les horloges de chez vous, puisqu'on change d'heure la nuit prochaine à 2h du matin. Il sera déjà 3h. Midi 45 sur RTL. Allez, comme promis, on va prendre des nouvelles de nos amis stars confinés. Et c'est d'abord un musicien qui nous rejoint. Bonjour André Manoukian.
Bonjour.
C'est un morceau de votre dernier album Apatride que vous nous faites écouter là, hein.
Oui.
Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle, ce morceau s'appelle Anaït, c'est la déesse de l'amour en Arménie. C'est un album où je me suis inspiré de mes origines arméniennes. Je me suis dit, pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, je vais en profiter. Donc voilà.
Votre confinement, alors, à vous, comment est-ce qu'il se passe? Où est-ce que vous êtes?
Je suis à Chamonix, chez moi. Je découvre que j'ai une femme et des enfants. Ah. C'est beau. Il a fallu tout ça. C'est-à-dire que, vous savez, bon, je suis beaucoup, beaucoup sur la route. Je suis un musicien, donc je suis nomade. Je faisais une centaine de concerts par an. Et puis, avec toutes les activités télé et tout ça, on va dire qu'en vérité, c'était plus à Paris qu'à Chamonix. Donc, du coup, je redécouvre ce pourquoi je suis venu m'installer ici. C'est-à-dire être un peu tranquille dans un environnement. C'est sûr que c'est privilégié. Je suis au pied du glacier des Bossons, de l'Aiguille du Midi.
Ah oui, vous avez bien vu.
J'ai une belle vue, mais je peux pas y aller. Donc oui. Voilà. Donc ça, c'est un peu bon, mais...
Vous respectez comme tout le monde, hein, les règles strictes de confinement? Vous sortez juste pour faire des courses ou un petit peu d'activité physique, pas plus?
Exactement, oui. Puis surtout que c'est très sérieux. Vous savez, au début, je me disais, bon, qu'est-ce que ça peut faire de se balader dans la montagne? Mais pas du tout, puisque au début du confinement, il y a des skieurs qui ont déclenché une mini avalanche. Ils ont eu besoin d'être secouristes. Les secouristes leur ont dit, vous croyez pas qu'on a autre chose à faire en ce moment qu'à s'occuper de vous? Donc, restez chez vous. Et voilà. La police fait très bien son boulot, les gendarmes et tout ça. Ils sont sur les sentiers, ils sont en quad, ils surveillent. Et du coup, tout le monde prend ça très au sérieux, quoi. Donc, je vais pas plus d'un kilomètre de chez moi parce que là, je commence à m'empâter un petit peu. Donc, il va falloir quand même. Et je m'aperçois qu'il y a plus rien pour me distraire. C'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est un boulot de confiné quand même. Compositeur, on est soit derrière le piano, soit derrière un ordi en train d'arranger. Et là, j'ai plus d'émissions à faire ou de voyages à faire. Donc, je suis en boulot non-stop. Donc, c'est assez curieux.
Vous travaillez tout le temps, en fait. Vous composez beaucoup plus qu'avant avec ce confinement?
J'ai deux albums sur le feu, donc ouais. Voilà, heureusement, j'avais enregistré les voix avant, et puis j'ai plein de boulot, puis je travaille aussi avec une chanteuse de loin, et puis j'ai aussi une start-up, donc on fait des réunions tous les jours au boulot, au téléphone, et voilà, quoi, on va dire que nous, le télétravail, ça faisait déjà un petit moment qu'on y était quand même.
Là, on écoute encore un autre extrait d'Apatride, votre album. Vous avez fait des stocks, hein, comme les Parisiens, de papier toilette et de pâtes, ou ça va à Chamonix?
Mais non, ça va. Et puis, je pense que c'est un réflexe de peur. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Par contre, j'espère juste que, je ne sais pas, c'est quand même curieux, c'est hallucinant. Je veux dire, j'en parle avec ma famille. Ma fille, elle est restée à Paris avec son mari et ses enfants. Et puis, on s'appelle tous les jours. Mmh. Et elle me dit que dans sa génération, elle a 35 ans, elle me dit « je m'attendais à ça depuis toujours ». Alors que moi, dans ma génération, jamais on aurait pensé, nous on est les baby-boomers joyeux, voilà, la génération d'après 68, dans les années 70, on allait vers un futur radieux et on allait arrêter le travail. Je me rappelle de GB qui disait « l'an 01 ». Si on arrêtait tout et si on réfléchissait, on y est, mais contraint et forcé. Donc j'espère qu'on va bien réfléchir et qu'on va pas recommencer les mêmes conneries, quoi.
Et qu'il en sortira peut-être du beau après tout ça. André Manoukian, vous avez eu l'extrême gentillesse de partager avec nous, enfin avec les auditeurs de RTL, un morceau que vous avez spécialement composé, un slam qui s'appelle « Unis chez vous ». On va l'écouter, c'est magnifique.
Minuscule, nous bouscule, nous manipule. Pas russe pour une fois, mais chinois. Il dicte comme une vindicte sa loi, sa Bible invisible. Ce petit confetti nous confine, nous compresse, nous oppresse. Confinés de tous les pays, unis chez vous. Confinés de tous les pays, unis chez vous. Confini ceux qui refusent et rusent. Confini, t'as pas compris? Profite, médite. Reprends le temps. Il faut, c'est beau, réapprendre les gestes tendres avec les siens, les tiens, les miens. Confinés, in fine, il faudra nous aimer. Confinés, in fine, il faudra nous aimer. Virus, vire nos us et nos coutumes deviennent posthumes, post-thunes. Advienne un rhume et tu vois l'au-delà. De loin, le plus loin de là. Virus, minus, exprime la la déprime de la vox populi, aigrie, punie, qui invoque une détox univoque. Trop d'oxy, oxymore pour rien, croissance heureuse, t'es fou ou bien? Virus Maximus, trop de peine, décret viral, la loi martiale, astral revenge pour abus de haine. La nature inhumaine inhume ton voisin. Hume ton prochain comme toi-même quand tu sortiras de là. Hume ton prochain comme toi-même quand tu sortiras de là. Il faudra nous améliorer quand viendra le décret qui dira « Sors ». Alors, tu feras en sorte que tout ça ne recommence pas.
Hume, ton prochain. Magnifique slam au piano, merci beaucoup. Ça vous inspire hein, ce confinement, en fait, André?
Oui, ben c'est sûr que ça a jailli rapidement. Quoi. C'est marrant. C'est... Parfois, je dis souvent que les grands sujets viennent tout de suite. On écrit presque sous l'objet de... La plus grande inspiration, c'est les chagrins d'amour quand on s'est fait larguer. Alors là, c'est formidable. Vous pouvez écrire tout un album. Mais là, c'est un drôle de chagrin quoi, qui m'a inspiré. Comme je chante faux comme un jambon, je me suis permis de slammer, quoi, voilà.
Et les jambons chantent faux, c'est bien connu. Une dernière petite question. Vous êtes né le 9 avril, je crois, hein ?
Ouais.
Vous allez faire quoi pour votre anniversaire confiné ?
Ben voilà, là, je vais être avec Stéphanie, mon épouse, et avec mes deux fistons. Alors, eux, c'est des experts du confinement. Hein. Ça fait... J'ai pas l'impression que ça change grand-chose pour eux. Ils sont derrière leur ordi toute la journée. Mais bon, voilà, on passe nos repas ensemble. Et puis, ils imaginent des solutions pour l'avenir. En tout cas, voilà, on va être tous les quatre. Et puis, je vais acheter une bonne bouteille de vin italien parce qu'on est de l'autre côté de la frontière italienne. Et qu'il y a encore... et on a une bonne épicerie italienne à Chamonix. Et puis, voilà, quand on passe, les commerçants nous disent « Oh, merci d'être là, limite quoi, mais bon, c'est bizarre. »
Eh bien, profitez bien, fêtez bien cet anniversaire et merci beaucoup d'avoir raconté votre confinement aux auditeurs de RTL. Il vous reste une petite dizaine de jours pour vous préparer un anniversaire inoubliable. Merci beaucoup André Manoukian.
Merci beaucoup.
À bientôt, merci. Il est 12h53 sur RTL, on fait une courte pause et on retrouve notre deuxième invité de ce journal inattendu spécial confiné. À tout de suite.
Le journal inattendu.
Pour votre soutien. Le journal inattendu sur RTL.
Avec Anne Lehena.
Vous la reconnaissez, hein, cette musique, c'est celle du générique de la série 10%. On attend la saison 4 à l'automne et nous sommes maintenant avec le producteur de la série, Dominique Besnéard. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Moi ça va, je suis confiné chez moi dans le 17e, rue des Acacias, et j'en profite pour faire le ménage, pour faire un tri. J'ai tellement de choses que je suis en train de faire le ménage, comme ça dans ma tête aussi, et avec des objets, avec un entassement de choses qui méritaient peut-être d'être triées. Voilà.
Vous rangez ?
Je range. Mais je range, je veux dire, c'est à la fois range aussi dans ma tête et puis dans, je fais un point, voilà.
C'est assez positif finalement pour vous ce confinement.
Ouais, bah c'est positif quand je suis face à mes affaires ou quand j'ai un balai brosse et quand je regarde la télévision, ça c'est très très violent. Donc voilà, donc quelquefois toutes les après-midi, j'attends le moment où Roselyne Bachelot va parler parce que j'ai très confiance en elle je trouve que voilà, son jugement est juste. Et puis sinon, bah, je regarde beaucoup des vieux films sur Ciné Plus classique. J'ai fait tout l'hommage à Charles Boyer, comme ça je suis dans un autre monde.
Oui, parce que la vie a radicalement changé à Paris, la vie parisienne n'existe plus.
Ah bah dans mon immeuble, à 20h, j'ouvre la fenêtre, on n'est pas nombreux, hein, rue des Acacias. À mon avis, tout est fermé. Bon, moi, je suis en face d'hôtels, ils sont fermés. Ouais. Mais même dans mon immeuble, on doit être 4 ou 5, quand même un immeuble de 6 étages. Ça veut dire que les gens ont fui et voilà. Moi, j'avais la possibilité de partir, mais je préférais être là et d'être avec mes propres affaires. Voilà.
Alors, vous êtes partie de ceux qui ouvrent leurs fenêtres tous les soirs à 20h pour rendre hommage à ceux qui sont encore sur le pont.
Nombreux, Oui, ben, je trouve ça un peu un geste symbolique et nécessaire. Et voilà, et quand même, j'appelle, je prends des nouvelles de mes amis. J'ai quelques amis qui ont été, qui ont le mal, mais bon, pour le moment, qui ont été, sont dans des, dans, au terme, enfin, au stade le moins grave, mais j'en ai quelques-uns, je les appelle. Et on se dit que c'est proche de vous. Ça, au début, on disait ça n'arrive qu'aux autres, mais là maintenant, on sent vraiment que ça nous touche de près. Hein.
Ça vous angoisse un peu ou ça va ?
Oui, ben ce matin, je prends ma température. Et ce matin, j'avais 37,3 ou 37,4. Ah oui, mais j'ai mis dit d'habitude j'ai moins de 37, donc je me suis mis, j'ai une petite angoisse. Et puis bon, je prends un Doliprane et puis on verra.
Pas trop, hein. Attention, faut
non.
Pas.
Non, mais vous savez, moi, je suis assez. J'ai les pieds sur terre. Voilà.
Est-ce que vous vous êtes mis au sport pour décompenser un peu ?
Eh bien, j'avais. Alors, vous avez l'impression que vous êtes un devin, mais en absolument. Effet, j'avais un vélo d'appartement que j'ai vraiment jamais utilisé. Maintenant, je l'utilise tous les jours. Voilà. Et donc, ça me fait du bien. Et comme je mange moins, je pense qu'au moins, je vais avoir maigri. Hein, voilà.
Ça, c'est l'avantage de ce confinement.
Oui, parce qu'en fin de compte, soit on saute sur le chocolat, soit on reste discipliné. Et j'ai la chance d'avoir un studio en bas de mon immeuble où j'ai un ami qui est un collaborateur qui est là. Donc, on fait la cuisine ensemble, on rigole et voilà, on a une cuisine très allégée.
Alors, on regarde tous hein, 10 fois plus, voire 15 fois plus la télé qu'avant. Je pense que beaucoup d'auditeurs d'RTL attendent impatiemment la sortie de la saison 4 de 10%. Vous pouvez pas l'avancer un peu, là, qu'on en profite maintenant ?
Non, elle n'est pas terminée. Vous savez, on a quand même la chance de terminer le tournage 10 jours avant le confinement. Mais il n'empêche oui. qu'il faut quand même faire la post-production. Donc, c'est en ce moment...
Et ça arrive à se faire ?
Oui, ben ça arrive à se faire, mais ça va. Mais de toute façon, le montage image est fait. Maintenant, c'est la musique. Et je pense honnêtement, cette quatrième saison est vraiment très très bonne. Je la trouve peut-être presque celle que je préfère, parce qu'on a eu des guests comme aussi bien Jean Reno que Franck Dubosc, que Mimi Mati, que toute la diversité du cinéma avec Sandrine Kiberlain, Sigourney Weaver,
ouais.
Eh bien, je peux vous dire qu'ils ont joué le jeu et qu'ils se sont encore plus mis en abîme. Là, on sent vraiment que ce que fait Franck Dubosc, c'est incroyable.
Bon, on attend impatiemment ça, alors voilà. Pour l'automne prochain, on va rester sage voilà. D'ici là. Je crois que vous parliez de rangement tout à l'heure. Hier soir, vous avez rangé vos disques, c'est ça ?
Ouais. Non, mais mes disques, mes CD, moi j'en suis encore aux CD.
Ben, moi aussi, mais c'est très bien les CD. Et vous en avez choisi un pour nous et pour les auditeurs de RTL, je crois, c'est lequel ?
Eh ben, j'ai choisi Alain Souchon que j'adore parce que cette chanson I'm 15, j'ai l'impression de me retrouver dans mon enfance, même si on a quelques années de différence, avec des souvenirs où on parle bien sûr de Gavin, de la voiture à ronde, de Jeanne Moreau, et puis des premiers amours derrière les cabines. Donc c'est vraiment une chanson magnifique. Et moi, j'adore Alain Souchon, voilà.
Dans le radio là, André Verschuren. Les enfants soldats dans les montagnes algériennes. La Picardie est belle sur la route ravie en haron de plein ciel qui rentre à Paris. I'm 50.
Voilà le choix que vous avez voulu partager avec nous, Dominique Messner, avec les auditeurs de RTL pour vivre au mieux ce confinement. Merci beaucoup d'avoir bien voulu prendre le temps de nous raconter.
Merci d'avoir eu votre échange. Merci.
Et prenez soin de vous. Merci beaucoup, Dominique Messner. À bientôt. Il est 13h.
Le journal inattendu sur RTL.
13h, les titres de l'actualité.
Anne Le Hénaff.
Et le Grand Est qui continue à évacuer ses malades du coronavirus afin que ses hôpitaux puissent encore fonctionner. Deux patients ont été emmenés en Allemagne ce matin par des hélicoptères militaires dans le cadre de l'opération Résilience, annoncée mercredi par Emmanuel Macron. Et demain, c'est un double TGV qui va quitter Strasbourg à destination du Sud-Ouest avec une trentaine de malades du coronavirus à bord. pont aérien avec la Chine également afin de faire venir rapidement ces masques qui manquent tant. 600 millions de masques ont été achetés en urgence, révèlent nos confrères du journal Le Monde. Le premier avion cargo devrait décoller demain. Le pic de la maladie n'a pas encore été atteint en France. Le dernier bilan est de 1995 décès, 300 morts de plus en 24 heures. 15 700 personnes sont hospitalisées. Depuis le début du mois de mars, 5 700 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. Le confinement a été rallongé de 2 semaines jusqu'au 15 avril prochain, a annoncé Édouard Philippe, qui tiendra une conférence de presse tout à l'heure à 17h. Le conseil scientifique avait auparavant réclamé au moins un mois supplémentaire, soit un confinement total de 6 semaines. En Espagne, le virus progresse aussi, bien sûr, près de 5 700 victimes, avec 830 nouveaux décès en 24 heures. L'Espagne est le deuxième pays le plus endeuillé au monde, après l'Italie. Au total, sur la planète, plus de 3 milliards de personnes sont confinées, c'est inédit. Le virus a fait 25 000 morts sur la planète. Canal+ ne veut pas payer les droits de retransmission des matchs de foot qui n'ont pas lieu en ce moment. Le groupe devrait verser 110 millions d'euros la semaine prochaine à la Ligue de football professionnel. Ce n'est pas envisageable, a écrit Maxime Saada, le patron du groupe Canal+. Tout est chamboulé, mais nous changeons quand même d'heure la nuit prochaine. On passe à l'heure d'été. À 2h du matin, il sera déjà 3h.
Le journal inattendu sur RTL avec Anne Le Hénaff.
Le jour se lève enfin sur pas d'amour Hollywood. Un train se marche dans la rue, me lâche un coup de coude. Alors je monte dans un taxi qui me dit de fumer merci. Libère, t'adore même, même l'hiver j'adore. Le jour se lève enfin sur pas d'amour.
Et vous avez reconnu sa voix magnifique et envoûtante. Notre troisième invité de ce journal inattendu spécial confiné, c'est Benjamin Biolay. Bonjour.
Bonjour, comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Bah écoutez, très bien.
Comment ça se passe ce confinement pour vous alors ?
Bah ça confine au max. Non mais j'essaie de pas du tout sortir, enfin à part pour acheter de quoi manger et promener le chien. Et non mais ça se passe comme tous les Français, c'est un peu dur j'imagine, mais il faut le faire.
Vous êtes à Paris ?
Oui, je suis à Paris, oui.
À Paris chez vous, d'accord.
Oui, je suis tout seul dans mon quartier, hein. C'est bien, c'est pratique.
Tout le monde est parti.
Tout le monde est parti, ouais.
Vous trouvez encore de quoi vous nourrir et de quoi vous...
Ah, ça commence à être compliqué un petit peu.
Vous faites la queue dans les supermarchés, comme tout le monde.
Bah, je suis comme tout le monde, hein. Je suis confiné chez moi, hein. Je fais attention et je sors que pour faire des courses. C'est promener le clébar, bah oui, il faut.
Vous respectez scrupuleusement ce confinement également.
Oui, oui, ainsi que mes proches, oui, mais je pense qu'on est nombreux, hein. On stigmatise beaucoup les gens qui ne le font pas en pensant que c'est la majorité, mais je ne crois pas.
Non, la majorité des gens, c'est vrai, hein, respectent ce confinement.
Ouais. On se fait taper sur les doigts un petit peu, mais bon, nous, en l'occurrence, on n'a rien fait.
Et ça vous fait quoi de voir cette capitale qui s'est quasiment vidée de tous ses habitants ? En tout cas, les habitants sont chez eux, enfin, on ne voit plus personne dans les rues. C'est très bizarre comme ambiance,
c'est
ça vous angoisse ? Ça vous inspire ?
Oui, en fait, c'est marrant quand les rares fois où on marche, on a une forme de peur qui n'est pas une vraie peur parce qu'il n'y a absolument personne, il n'y a pas de réelle menace à part le virus qui est une réelle menace, c'est sûr, mais il n'y a pas d'agresseur, il n'y a pas de truc, mais c'est étonnant, il y a un côté film d'anticipation, et j'ai vu des images au drone, c'est encore plus angoissant. J'ai vu des images de ma ville de Lyon aussi, ça c'est très bizarre parce que je n'y suis pas. Ouais. Et de la voir comme ça, c'est stupéfiant. Je commence à m'habituer à voir Paris désert, quoi.
Mais Lyon, c'est plus compliqué, c'est plus loin.
Ben, j'y suis jamais allé sous le confinement et j'irai pas maintenant. Donc oui, c'est étonnant de voir ça. Ouais.
Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous amène à composer différemment ou à réfléchir autrement à ce que vous créez ?
Non, je dois vous avouer que non. Je prends du plaisir à prendre ma guitare et à prendre les chansons des autres, à faire des trucs, mais je ne suis pas très inspiré par la situation. Je ne suis pas de mes proches qui sont un peu artistes aussi comme moi. Il n'y a pas grand monde qui trouve ça très inspirant.
D'accord. Je crois que vous postez régulièrement sur...
Oui, tous les jours, une petite chanson, mais pas de moi. Ouais, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça fait plaisir à quelques personnes, et ça me fait très plaisir. Et puis, c'est bien pour ma discipline aussi, moi, de continuer à le faire un peu... ce que j'aime, quoi. Même si bon, j'ai qu'une guitare, j'avais pas prévu le coup, donc j'ai pas beaucoup de matériel.
Mais... Vous avez pas de studio chez vous, vous ne pouvez plus
non.
Y aller.
Ouais.
Vous avez composé une reprise, hein, spécialement pour ce journal inattendu et pour les auditeurs de RTL. C'est une reprise de qui ?
C'est une chanson de Georges Moustaki, ouais. Qui l'a chantée, mais que que Serge Reggiani a chanté aussi, beaucoup d'interprètes. Elle s'appelle Ma Solitude.
Au nom particulièrement destiné, on l'écoute ?
Avec plaisir.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place. Et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. J'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Je suis jamais seul avec ma solitude.
C'est un titre de circonstance que vous avez choisi pour nous, Benjamin Biolay, mais c'est magnifique. Avec juste une guitare, vous faites ça?
Ah ben, un petit téléphone. Non, mais j'aurais aimé faire mieux, mais je ne peux pas. Ouais.
Et on peut retrouver ça, donc, toutes vos reprises que vous faites chaque jour sur votre compte Instagram.
Ouais.
Comment vous avez appris la nouvelle qui est tombée hier que ce confinement allait durer 15 jours de plus?
Je vais vous faire une confidence, j'écoute très peu les informations, mais je m'en doutais alors absolument complètement. Je m'en doutais naturellement, donc je l'ai appris un peu plus tard que tout le monde, je pense, mais bon, enfin, c'était absolument pas une surprise.
Oui, et vous êtes prêt, vous vous sentez d'attaque?
Pas du tout, et vous?
Pas du tout, moi je vais avoir un problème de coiffeur, et vous?
Entre autres.
Qu'est-ce qui vous manque le plus?
C'est trop long. C'est trop long à expliquer.
Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez commencé à faire que vous ne faisiez pas? Dominique Besnéard s'est mis à ranger son appartement frénétiquement. Est-ce que vous avez commencé le sport? Est-ce que vous avez appris une langue étrangère? Je ne sais pas.
Non, je perfectionne un peu l'espagnol, des choses comme ça. Non, j'ai rien découvert de moi. Je trouve pas de nouvelles activités. J'en suis à me demander si je vais pas casser des trucs pour voir si je sais pas les réparer.
Ah, quand même. Voilà. Ouais. Ah oui, on rentre quand même dans.
On rentre un pathologique, dans un moment un peu shining, ouais. Non, mais c'est normal.
Shining. Ben, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant si vous devenez bricoleur.
De toute façon, je vais tenir le coup, hein, comme tout le monde, mais c'est normal d'avoir des petites fluctuations d'humeur, je crois.
Bien sûr, c'est normal, ça arrive à tout le monde.
C'est un plaisir de parler à un être humain, enfin.
Ah ben, moi aussi, c'est réciproque. Puis en plus, pas à n'importe lequel, en ce qui me concerne.
Ah ben, c'est gentil.
Merci beaucoup d'avoir partagé votre confinement parisien avec les auditeurs de RTL, Benjamin Biolay. Et tenez bon.
Mais bien sûr, vous aussi, mais bien bon tous.
Merci, au revoir. 13h10 sur RTL, à tout de suite, on continue notre tour des stars confinées par le coronavirus. À tout de suite.
Avec l'aide de l'Union Européenne.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Anne Le Hénard.
Et à 13h12, c'est maintenant Thierry Marx qu'on va retrouver pour parler confinement. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous? Comment se passe ce confinement pour vous?
Ça va, je ne me plains pas.
Vous êtes où?
Je suis dans le 11e arrondissement de Paris.
À Paris.
Dans mon atelier.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors de vos journées maintenant que vous ne pouvez plus sortir?
Je planifie beaucoup. Ça commence par le sport, ensuite la prise de contact avec les collaborateurs, à distance évidemment, par les calls conférences. Et puis après, rangement, inventaire un petit peu de la maison que je ne fais jamais. Et puis lecture, musique, un petit peu comme tout le monde. Mais j'essaie de planifier au maximum pour pour rester dans un cycle dynamique.
Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà avant ou vous êtes imposé un peu ce rythme, cette structure pour tenir, entre guillemets ?
Il y a quelques années, j'avais connu ce type de confinement, mais pas lié à un virus, mais à la mer, à différents lieux où je m'enfermais un petit peu pour réfléchir. Mais non, ça ne me panique pas. Ce qui m'ennuie, c'est évidemment tous les gens qui souffrent et qui sont touchés par la maladie. Et ça, c'est terrifiant. Mais j'essaie de rester positif et de voir l'après et la préparation de l'après-confinement et du redémarrage de nos activités.
Parce qu'évidemment, les restaurants dans lesquels vous travaillez sont fermés, il n'y a plus de clients.
Exactement, toutes les activités, qu'elles soient restaurants ou autres, eh bien, sont bloquées, sont à l'arrêt, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc il faut, il va y avoir des dégâts, et donc il faut quand même se préparer et réconforter les équipes. Et puis ça va être une team qui va devoir redémarrer tout ça, donc il faut rester connecté et positif.
Vous êtes déjà dans l'après, vous pensez déjà à la sortie ?
Oui, bien sûr, je pense qu'il faut, tant qu'on n'est pas attrapé par cette saloperie, il faut voir l'après, on va s'en sortir. Je suis sûr que c'est le collectif, ça nous fera réfléchir aussi et peut-être faire les choses autrement dans l'après.
Vous pensez qu'il peut sortir quelque chose de bénéfique, de bon de cette période sidérante ?
J'en suis convaincu, pour certains qui auront compris un message fort finalement, que tout n'est pas lié au profit, au revenu, que les théories du low cost sont pas les bonnes. Aujourd'hui on voit les manques parce que on a cru que des lignes comptables suffiraient à gérer nos vies. Eh bien non, il faut des fois avoir une logique de l'économie de la qualité plutôt que de l'économie du low cost.
Vous parlez des hôpitaux là ?
Je parle d'un ensemble de choses, se préparer collectivement à se dire que tout n'est pas qu'une ligne de chiffres. Et il faut être en mesure d'affronter des pandémies comme celle-là, et elles sont terrifiantes bien sûr. Mais il faut, et je suis sûr qu'on va en tirer des leçons.
Vous parliez de sport, je crois que vous êtes un grand pratiquant d'arts martiaux, vous arrivez à continuer à vous entraîner en ce moment ?
Oui, alors là on fait ça entre copains, on a évidemment par des écrans.
À distance,
et
ah
puis
oui.
À distance, bien sûr, et on fait de l'ingéniosité. Alors, ce qui est drôle, c'est que de temps en temps, je suis éducateur dans les milieux fermés, dans les milieux de privation de liberté, et je m'aperçois que les détenus ont énormément de choses pour faire le sport de façon confinée. Et on a des astuces comme ça qui nous permettent de continuer un peu la muscu, les
par
tractions.
Par exemple, comment on fait de la muscu chez soi ?
Moi, j'ai des élastiques, donc c'est très pratique, et j'ai des escaliers surtout. Donc je fais et du cardio et de la muscu, et ça me démarre bien. Et puis après, il y a tout ce qui est yoga et méditation qui font un bien fou aussi avant d'aller dormir.
Comme nos précédents invités, vous avez choisi un morceau de musique pour nos auditeurs pour que ce confinement se passe le moins mal possible. Qu'est-ce qui vous a convaincu ? Qu'est-ce que vous avez choisi ?
J'avais choisi Johnny Cash avant de Back Down parce que je pense qu'il faut pas reculer, faut affronter les choses, même si c'est douloureux, difficile, et j'ai une pensée pour tous ceux qui souffrent et qui perdent des proches. Mais je me dis, faut pas reculer, faut avancer, faut continuer à chercher, et faut se battre finalement jusqu'à temps qu'on finisse par souffler la veilleuse ou pas et avancer.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around, and I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down.
Johnny Cash, c'est votre choix, Thierry Marx,
pour oui.
Accompagner ce confinement. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous.
Et merci à vous.
Et tenez bon. L'avantage, c'est que vous avez bien mangé, vous au moins. Vous ne faites pas des pâtes toute la journée.
Non, il faut continuer à se faire la cuisine et à faire la cuisine pour ceux qui sont confinés avec nous. Mais il faut faire la cuisine. Si on peut avoir quelques produits, c'est quand même très sympa de savoir ce qu'on mange.
Profitons-en. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis au fourneau pour occuper leur temps libre un peu forcé en ce moment.
Et tant que je vois beaucoup de mes confrères qui communiquent aussi beaucoup sur les réseaux des recettes,
c'est
le moment de communiquer autrement. que par le biais de la cuisine, qui est un lien social fort.
C'est le moment de s'y mettre. Merci beaucoup Thierry Marx.
Merci.
Joyeux confinement à vous, à très bientôt. 13h18 sur RTL. Dans un instant, notre prochain invité, c'est un grand écrivain qui va nous rejoindre. A tout de suite. Hey, I will stand my ground and I won't back down. No, I won't back down. RTL.
Ilk France.
Le journal inattendu sur RTL, Anne Le Hénaff.
Buena Vista Social Club pour notre dernier invité de ce journal inattendu spécial confiné. C'est vous qui avez choisi ce morceau, Eric Orsena, bonjour.
Bonjour, mais oui, j'ai choisi ce morceau parce qu'il est joyeux. Mais regardez le titre, c'est Social Club, c'est ce que nous sommes en ce moment. Et Buena Vista pour essayer d'y voir un tout petit peu plus. Et puis, comme j'ai des origines cubaines, moi je voulais saluer ces gens absolument magnifiques. Et puis m'inscrire dans la suite de Thierry Marx, c'est vraiment un honneur. Parce que cette personne dynamique et généreuse, c'est vraiment un modèle pour nous tous.
Et puis ça fait du bien cette musique ensoleillée.
Ah, ça fait bien, on se dérouille, on a envie de danser avec un mètre de distance, mais enfin, on se rapprochera après.
Où est-ce que vous êtes, Eric Orsena ?
Eh bien, je suis à Paris, dans le 13e arrondissement, et c'est là où je travaille, je continue à travailler, puisque ça fait 3 ans, au fond, que je réfléchis à la question de la mondialisation et des relations avec les animaux. Puisque j'avais écrit un livre qui s'appelait « Géopolitique des moustiques », où on sait que les moustiques sont partout, lesquels moustiques, d'ailleurs, rappelons-le, causent la mort à cause de leurs parasites de 700 000 personnes dans le monde. Mais comme il s'agit de pays plutôt pauvres, on n'y prête pas une attention suffisante. Donc voilà, et maintenant je travaille sur le cochon, le porc, les pandémies, etc.
Le pangolin ?
Exactement, le porc, notre porc, puisqu'il y avait la peste porcine qui ne touchait que les animaux, mais évidemment le pangolin, la chauve-souris, etc., c'est-à-dire toutes nos relations avec les animaux. Et donc, je raconte un peu tout ce qu'on appelle les barrières d'espèces et comment ces barrières sont traversées les unes après les autres. Parce que ce qui me semble le plus évident dans cette affaire, c'est que se rappeler que la vie est unique et que nous sommes sur un bateau, un vaisseau spatial qui est la Terre. Donc, les frontières, c'est bien gentil, mais les virus, elles s'en moquent. Et le vivant, il se moque des frontières. Nous sommes en solidarité.
Mais comment vous voyez-vous alors cette pandémie qui justement bouscule tout ce qu'on pouvait croire, tout ce qu'on avait déjà vécu en matière et de maladie et de mondialisation? On est dans un scénario improbable.
Bien, on pensait qu'on était dans la maîtrise, pas du tout. C'est très étonnant notre situation parce qu'on a une vision complètement infantile et ou cynique de vouloir absolument tout maîtriser alors qu'au fond on maîtrise rien du tout et on est dans une course folle sans réfléchir. Et j'ai lu ce que disait Edgar Morin ce matin, c'est exactement ça. Nous sommes dans une communauté absolue de destin, nous sommes sur le même bateau, premièrement, et c'est le moment de distinguer en ce qui est totalement frivole et ce qui est absolument nécessaire, et notamment la nourriture. Et quand on voit qu'on prêtait pendant si longtemps, si peu attention à la nourriture, en disant « toujours moins cher, toujours moins cher, toujours moins cher », eh bien, il faut bien se rendre compte que toujours moins cher, ça peut être toujours le plus dangereux.
Et cette pandémie, elle va remettre des curseurs à leur bonne place, vous pensez ?
Écoutez, je l'espère, parce qu'on a une capacité à oublier immédiatement les épreuves et de n'en tirer aucune sorte de leçon. Alors, il faut espérer que cette fois-ci, la leçon est tellement forte qu'on en retirera quelque chose. Mais il y a des points importants. Et ce qui me rappelle aussi à des éléments, on pensait que l'homme est uniquement économique, c'est pas vrai. L'homme, il est aussi social, il est aussi politique. Regardez ce qui est en train de se retisser entre le rôle absolument nécessaire des États, comme on le voit, mais en même temps la nécessité absolue de la coopération internationale. Et on voyait les pays les plus nationalistes, comme la caricature des États-Unis de M. Trump, être frappés les premiers. Donc il y a quand même quelques leçons. Alors allons-nous tirer des enseignements de ce que nous apprenons en ce moment, je l'espère vraiment. En tout cas, il y a un point absolument clé pour moi en tant qu'ambassadeur de pasteur, c'est oui. vraiment l'unité de la vie. Nous sommes sur le même bateau, premièrement, et faisons confiance au savoir. C'est-à-dire que pas simplement dans le soupçon général, etc. Et quand je pense que on a, pour des raisons d'économie, écoutez bien, d'économie, on a sacrifié un peu partout les budgets de la recherche, mais on voit à quel point c'est criminel.
Là aussi, c'est un curseur qui va peut-être revenir à sa juste
espérons.
Place.
Espérons. En tout cas, nous serons des millions et peut-être des milliards
à le réclamer.
À se battre pour revenir à cette évidence, cette double évidence de l'unité de la vie et la nécessité du savoir.
Au quotidien, vous le vivez comment, ce confinement ? Vous êtes donc chez vous, dans un appartement ?
Voilà, je suis chez moi, je vis avec ma femme qui sort régulièrement, d'abord pour aller consulter parce qu'elle est médecin, et ensuite pour aller s'occuper de sa mère qui est âgée et qui est à l'autre bout de Paris. Donc elle a une sorte d'incarnation des tâches que doivent assumer des tas de gens un peu partout dans le monde.
Et vous le vivez bien, cet enfermement, c'est quelque chose de pénible pour vous ou de créatif au contraire?
Vous savez, nous, virgule, écrivains, artistes, etc., sommes plutôt de toute manière des privilégiés parce que le confinement, c'est la nécessité pour nous pour réfléchir et puis pour avancer. Mais moi, je salue vraiment avec un respect infini tous ceux qui sont au service des autres, bien sûr les soignants. Et je connais bien cette question puisque ma fille aussi est infirmière et bientôt va monter en première ligne. Donc, mais tous ces gens-là, et quand je vois les éboueurs qui sont là, et qui saluent et qui sont la plupart du temps pas protégés, alors respect infini pour ces solidarités-là. Salons. Moi, vous savez, je suis pris, et c'est pas parce que je suis un peu émotif et tout ça, mais quand même, quelle gratitude. On a oublié ces solidarités-là. On les voyait même pas, ces gens-là. Et maintenant, on les applaudit.
Vous le faites, vous applaudissez le soir?
J'applaudis, mais j'applaudis tout le temps. J'applaudis sans arrêt. Et donc, vous savez, les applaudissements, il faut qu'ils durent, hein. Parce que le spectacle va continuer, parce que la solidarité, elle est vraiment en marche.
Vous disiez votre femme est soignante, votre fille aussi, c'est particulier ce moment pour elle également.
Oui, mais c'est leur métier, c'est leur mission, c'est pour ça qu'elles sont choisies, être au service des autres, avec les risques que cela implique. Donc respect infini, mais il n'y a pas que les soignants, vous savez, où c'est la notion du soin. Qui soigne ? Tous ceux qui participent à une société soignent. Comprenez, s'il n'y a pas d'éboueurs, vous imaginez ce que ça serait la vie sans les éboueurs ? Imaginez ce que ça serait encore pire ? Donc c'est ça cette affaire. Donc respect. Donc j'applaudis pas seulement évidemment les soignants, mais tous les soignants, toute la chaîne des soignants. C'est ça ce qu'il faut dire, c'est la solidarité. Nous sommes sur le même bateau. Moi je suis marin depuis que je suis né. Et en marin, je suis toujours le plus faible parce que les autres sont nettement plus forts. Donc, ou ils prêtent attention à moi et me font monter, ou notre équipage est pas bon. C'est ce que j'ai appris avec Isabelle Autissier notamment, vous comprenez ? La Terre est un vaisseau spatial. On avait l'impression qu'elle était séparée entre appartements. Alors, c'est quand même vertigineux ce qui se passe. Où nous sommes tous confinés dans un monde hyperconnecté. Il faut quand même se poser quelques petites questions.
Est-ce que vous écrivez plus que d'habitude en ce moment ou...
Non, parce que je suis en contact avec des tas de gens grâce au net, grâce au téléphone, etc. Et que je suis en contact plusieurs fois par jour avec ce formidable Institut Pasteur et ce réseau international. Et donc, qui m'explique un peu ce qui se passe, leur bataille pour les traitements, leur bataille pour les tests, leur bataille pour les vaccins. Et comme j'ai écrit, vous savez, une biographie de Pasteur, je voyais ces batailles qu'il y a eues entre Pasteur et son concurrent allemand Koch, où c'était des batailles avec des épidémies terribles. D'ailleurs, rappelons-nous que nous n'avons pas le monopole, nous, époque moderne, nous n'avons pas le monopole des épidémies. Donc, c'était pas mieux avant, forcément. Il y a eu des épidémies terribles dans le monde passé. Donc celle-là, il faut la maîtriser, mais en tirer les conséquences, comprenez, et pas raconter n'importe quoi, aller très vite et que l'ego laisse la place à la solidarité.
On va souquer ferme dans cette direction, Eric Orsenna. Comme vous êtes breton, et qu'en fait moi oui. aussi, on s'est dit qu'un peu de son oui, de la mer ne ferait pas de mal.
Vous avez un nom, vous avez un nom fabuleux pour une bretonne. Écoutez, ça je vais vous dire, ça c'est la gloire. La gloire est naf, ça c'est clair.
Écoutez le bruit de la mer. On se fait ce petit plaisir pour finir.
C'est magnifique. Vous savez, ça me permet de dire une chose que j'ai apprise de